Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter l'aïoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux connos.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça va Guillaume ?
Ouais, ça va Nico, ouais, merci.
Ça va, ouais, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille.
Sur Radio Galère.
Sur Radio Galère. Et aujourd'hui Guillaume, nous allons à Foresta.
On est allé rencontrer Xavier et Léa, qui font partie de l'association Yes We Camp, et qui ont investi le parc de la Viste il y a 3 ans maintenant, et qui vont nous parler de ce projet.
Puis nous entendrons André et Joël qui feront un point d'étape sur la mobilisation en cours contre l'extension de l'aéroport de Marignane. Et pour terminer, nous présenterons bien sûr l'agenda d'Attaque et nous vous ferons découvrir également quelques artistes marseillais. Bonne écoute sur La Gueule Ouverte. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui sur le site de Foresta. Nous remercions Xavier de nous accueillir. Alors peut-être Xavier, tu pourrais déjà nous présenter l'association.
Bonjour à tous, du coup moi c'est Xavier, je suis régisseur ici sur le parc Foresta. On est une équipe de 8 personnes à l'heure actuelle, en salariés, stagiaires, service civique, entre de la com, de la recherche de financement. Et surtout, il y a une grande partie du projet où on accueille d'autres structures, d'autres associations qui viennent à nous aider à aménager le parc et l'aménager pour eux. On est là depuis... Ça fait 5 ans qu'on travaille sur le projet. Ça fait 2 ans qu'on est vraiment sur site, qu'on s'est vraiment implanté. Et qu'on a réussi à avoir l'eau et l'électricité qui nous a permis de vraiment être là tous les jours de la semaine. Alors Yes We Camp, c'est né en 2013 avec la capitale européenne de la culture. C'est né d'un projet à l'Estac de camping éphémère sur le temps de la capitale européenne de la culture. Et à la suite de ça, il y a un noyau qui s'est créé. C'était beaucoup de bénévolat. Il y a un noyau dur qui s'est créé. Il y a plusieurs projets qui ont été amorcés, et dont un qui a super bien marché à Paris, qui s'appelle Les Grands Voisins. À la suite de ça, plein d'autres projets, ça nous a ouvert pas mal de portes et plein d'autres projets se sont lancés. Le projet du parc Foresta, il est assez vieux en fait, il date de 2015. Et c'est le propriétaire du site qui a racheté un lot de 26 hectares, 10 hectares de constructibles plutôt, et 16 hectares de parc. Sur les 10 hectares, il fait son projet. Il y a le projet du MIF qu'on peut voir là avec les grands conteneurs, le grossiste d'importateurs de textiles chinois. Et le Baou, une discothèque qui est assez chouette. Et ce parc-là de 16 hectares dans lequel il fallait le réaménager. Et il est venu nous voir en nous demandant ce qu'on pouvait faire. Et du coup, on a commencé à dire ben, on va rencontrer les usagers du site, les gens qui sont présents, et pour voir ce que eux veulent de cet endroit-là, ce dernier poumon qu'il y a autour de tous les quartiers environnants. C'est parce que 16 hectares, c'est quand même immense. 16 hectares de parc en friche, c'est quand même très très grand. Et il y avait déjà pas mal d'usagers, des randonneurs, des promeneurs de chiens, des sportifs et des motos qu'on entend de temps en temps. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de les rencontrer. On a mis 3 ans à petit à petit faire des événements plutôt réguliers. Les dimanches à Foresta, où on venait, on rencontrait tout le monde, on invitait plein de gens, tous les acteurs environnants, qu'ils soient économiques comme la Tuilerie Monnier, ou associatifs, centres sociaux, Grand Littoral aussi. Alors là, on est, pour faire simple, si vous rentrez dans Marseille par l'autoroute la 55, vous allez voir des grosses lettres Marseille-Hollywood, les grosses lettres de Marseille, et c'est Foresta, c'est au pied de ces grosses lettres, entouré juste à côté de Grand Littoral, avec une superbe vue sur toute la rade de Marseille. C'est ça, la Viste, ça fait la Castellane, la Bricarde, Plan d'Au, la Viste, Saint-Antoine, et du coup on est vraiment au cœur de tous ces quartiers-là, et c'est vraiment un espace d'un écrin de verdure.
un des derniers dans le secteur, vraiment très centralisé et à côté du Grand Littoral qui est vraiment l'espace de vie de tout ce bassin-là, de tous ces quartiers-là.
Tu nous as parlé tout à l'heure des partenaires en fait, avec qui vous travaillez sur le site. En termes de, par contre, de financement, quels sont, comment vous pouvez subvenir à vos besoins et développer toutes les activités que vous proposez sur le site?
Alors du coup, le gros financement qu'on a eu qui nous a permis de lancer le projet, c'est l'Europe avec un FEDER. Et en gros, c'est un gros financement de l'Europe qui nous a permis pendant 3 ans de nous payer, nous, de commencer à accueillir des porteurs de projets, des cousins comme on appelle ici. C'est le centre équestre, les jardins d'Amida au soleil Terre Ravie, c'est les bateaux qui sont en contrebas. Et du coup, ça a permis d'amorcer le projet. Avec cette amorce, le FEDER, c'est une grosse partie. Il y a eu, en termes de financement, il y a eu politique de la ville aussi en investissement. La région, on a du financement privé aussi. Et après, une grosse partie des sous d'amorçage ont été lancés. C'est l'association Yes We Camp avec le projet des grands voisins qui a en fonds propres qui a financé. Et l'idée, c'est d'avoir des financements sur 3 ans de la part des collectivités et en privé aussi, continuer à avoir une espèce de mélange public-privé. Alors si, oui, on cherche quand même un autofinancement pour que le parc puisse vivre, et surtout, à terme, l'idée c'est qu'il y ait une entité qui s'appelle une nouvelle association Foresta, que ce soit plus Yes We Camp qui soit gestionnaire du lieu, mais plutôt cette association-là, qui ait la gestion du parc en entier. Et du coup, ça, c'est essayer de trouver comment on arrive à créer une économie propre au projet pour qu'il soit viable. Du coup, l'idée, c'est quand même d'avoir un fonds des sous qui reviennent à une économie interne, l'autofinancement en fait. Nous, notre rôle, c'est de lancer, de commencer à créer ce parc et créer cet endroit qui existait déjà avant nous, mais de remettre des formes et de lancer cette association. C'est un des premiers projets où on n'est plus sur de l'éphémère ou du temporaire, comme sur d'autres projets. Là, on est sur... L'idée, c'est que ça reste un parc, et que dans 20 ans, 30 ans, ça soit toujours un parc, où il y ait plein d'activités à faire dans tous les sens, liées à la nature, liées aux animaux, qu'on puisse venir dormir sur site. Mais voilà, l'idée c'est vraiment que ça reste la base du projet, c'est à réaménager le parc avec les personnes qui sont motivées à le faire, les habitants tout autour et d'autres associations, d'autres structures qui viennent.
Finalement, comment vont s'organiser les rencontres avec les habitants, à la fois pour recueillir leurs paroles, leurs aspirations et leur permettre de s'engager?
Alors ça a été un gros travail. Pendant 3 ans, on faisait, comme je disais au début, des événements ponctuel les dimanches à Foresta où on venait et on créait un moment convivial. Après, on a commencé à construire ce qu'on appelle la base vie, ou l'endroit, la maison du projet, où nos bureaux. Et après, à partir de là, on a créé plusieurs espaces qui permettent d'accueillir plus facilement les gens. Et on est à une phase du projet où on lance vraiment cette assemblée Foresta où des habitants, les structures autour peuvent venir, viennent et prennent part aux décisions du site. On est vraiment au balbutiement, ça fait depuis le début d'année, depuis janvier qu'on a lancé cette assemblée-là. Elle est très restreinte pour le moment. D'accord. L'idée, c'est en cours de construction. Après, toutes les envies et toutes les volontés des gens à venir filer un coup de main... Ça, nous, on est là pour ça, pour structurer. On a plusieurs chantiers qui vont arriver. On a des besoins pour les jardins, pour les différents porteurs de projets qu'il y a là. Les cousins, au soleil, terre, à vie, le jardin pédagogique. Il y a toujours besoin de personnes pour filer un coup de main. Au niveau du centre équestre aussi, il va y avoir des travaux, des constructions en contrebas. Un nouveau ring de boxe, des nouveaux rings de boxe, une petite scène... des jeux pour les enfants. Du coup, tout ça va être construit. Et l'idée, c'est pas que ça soit construit par nous, mais que ça soit construit avec le maximum de personnes qui veulent utiliser ces espaces.
Quel est l'objectif en fait de ces jardins? Est-ce que le but c'est de produire pour...
Alors, les jardins, c'est Le nom, c'est vraiment jardin pédagogique. L'idée, c'est de plutôt sensibiliser, amener à travailler le sol. La production, bien sûr qu'elle sera mangée sûrement sur place avec des grands banquets ou suivant les quantités, peut-être un peu revendues pour créer des fonds propres, des fonds du financement pour le projet. Mais l'idée, c'est de base, c'est vraiment de sensibiliser et de venir travailler le sol. Et c'est vraiment à vision pédagogique, quoi. Je voulais vous parler aussi du verger commun. On a planté une trentaine d'arbres l'année dernière, que des arbres fruitiers, et dans lequel l'idée, c'est que ça soit vraiment l'espace commun, à la fois pour planter, avoir des fruits, mais il y aura toute une partie jardin aussi, où toutes les personnes qui sont motivées à filer juste un coup de main pour de manière très pédagogique, avoir planté quelques tomates, des vignes, et histoire d'avoir un moment, un grand banquet qu'on ferait tous ensemble au moment de la récolte. C'est plutôt ça l'objectif.
Et pour l'instant, l'adhésion des utilisateurs, des gens des quartiers alentours, comment ça se passe? Est-ce qu'ils adhèrent au projet? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'ils viennent s'impliquer effectivement dans les projets de construction, d'aménagement et d'exploitation des jardins, de tout ce qui va avec?
Ça, c'est depuis pas très longtemps. Le Covid nous a beaucoup aidés aussi, dans ce sens-là. Parce que, en fait, le projet est de plus en plus connu et on comprend un peu plus ce qu'on va y faire, ce qu'on peut y faire. Les cousins, je pense au ranch Caraman et au jardin au soleil Terre Ravie, le jardin d'Amida, sont vraiment des grands partenaires et du coup le projet est en train de monter, on est dans une phase vraiment de développement assez fort. Comme on peut voir les samedis, dimanches, il y a quand même beaucoup beaucoup de monde sur le site et ça fait vraiment plaisir de voir ce changement là. Quand on est arrivé sur le site, il n'y avait pas grand chose, c'était très rude. Là, le public ciblé, c'est beaucoup la famille, du coup on est très content qu'il y en ait de plus en plus. De même, ils demandent à chaque fois qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, et du coup on les oriente sur les chantiers qu'on fait. Pas mal de chantiers participatifs, en fait pratiquement tout est construit avec l'aide des gens, de gens extérieurs. La maison du projet, ce bâtiment, on a fait des enduits en terre, avec même une formation avec des constructeurs. Les tables de ping-pong, le ring de boxe en bas, vraiment plusieurs éléments sont pratiquement tout en fait est en chantier participatif et ouvert. Les barbecues également, les escaliers sur lesquels on est. C'est des anciens Algeco qu'on a récupérés et on a fait un travail avec de la paille de riz et de la terre. Et du coup, c'était un grand chantier. On a fait un deuxième mur en isolation extérieure.
Pourquoi de la paille de riz?
Parce qu'on a découvert que c'était une filière très locale avec le riz de Camargue. La paille qu'on a du mal à recycler parce qu'elle est très siliceuse. L'utiliser le mieux possible, c'est en fait en isolant. Elle se fait moins manger aussi par les rats et les souris. Et du coup, c'est une filière qui est en train de se lancer, l'utilisation de la paille de riz.
Est-ce que vous avez un réseau de récupération et de recyclage de matériaux?
Un des projets aussi qui vient du financement européen, c'est qu'on doit construire un bâtiment. Un bâtiment qui fait, à l'heure actuelle, c'est un préau de 600 mètres carrés. À l'intérieur, on va faire des petites boîtes. Il y a une cuisine, trois salles. Une qui fait 100 mètres carrés et deux petites qui font 40 et 40 mètres carrés. Et du coup, c'est vraiment ces petits... ces espaces-là, ils vont être utilisés par différentes manières. Nous, on ne sait même pas encore trop comment. C'est qu'on laisse les personnes venir et proposer les choses. C'est tout l'enjeu, en fait, de travailler ici. Cette structure métallique, on a fait du réemploi de matériaux avec l'association Redificare. La destruction d'un tripostal. On a récupéré des volets aussi, plein de choses grâce à cette association qui essaye de structurer le réemploi en PACA. Redificare ça s'appelle. Il y a la maison des projets qui est l'espace qui va permettre l'accueil d'autres personnes à venir pour venir travailler sur le site. Il y a la Radio Foresta, Super École, qui essaye de, à l'échelle du parc et des quartiers environnants, de créer une communauté d'auto-entrepreneurs et d'entrepreneurs. Les personnes peuvent venir et être tutorées par d'autres personnes qui ont monté leur entreprise dans le coin. Le parc, c'est une ancienne carrière d'argile, sol sur lequel on marche. C'est que du remblai. C'est du remblai. Quand ils ont construit Grand Littoral, ils ont rasé la colline et ils ont rempli ici le trou de la carrière pour niveler ça et avoir un seul parc d'un seul tenant. Et du coup, on a découvert qu'il y avait quelques sources sur ce site, de plans d'eau et de la viste. On arrive à en récupérer une partie pour arroser d'ailleurs le verger et les jardins pour donner à boire aux chevaux.
Du coup, ici, tu disais, c'est des anciennes carrières d'argile. C'était exploité par qui, pourquoi ?
Alors, c'est exploité par l'usine Monnier, qui est juste en contrebas. C'est la dernière usine de Marseille. Il faut savoir qu'à Marseille, il y avait 11 usines tuileries. Et à l'heure actuelle, il n'en reste plus qu'une. Depuis que le gisement ici de la carrière s'est arrêté, l'industrie de la tuile a aussi un peu chuté. On travaille également avec eux. C'est eux qui nous ont fourni l'argile pour faire les enduits de la maison des projets, pour faire l'argile pour des ateliers avec des enfants et les fours à pain et à pizza qu'il y a sur le parc.
Et là, tu nous dis deux mots sur ce bâtiment là devant lequel on passe.
Alors, ce bâtiment, c'est la maison des projets. C'est la maison qui va accueillir les futurs porteurs de projets. Et l'idée, c'est de l'ouvrir encore plus et que s'il y a des personnes, des collectivités, des collectifs locaux qui ont besoin de faire des séminaires, des choses comme ça, ils peuvent venir les faire au parc aussi. C'est une manière aussi de rentrer dans nos frais.
Oui, ça peut devenir un lieu privatisable, donc monnayable.
Exactement. Pour rentrer dans l'économie du parc.
Est-ce qu'il y a d'autres projets ?
Par contre, en petit, plus éphémère, c'est en contrebas, on se lance le projet de la plateforme basse, la plateforme des sports, avec plusieurs rings, une petite scène, des jeux pour enfants. Là, l'idée, c'est de venir et de grossir et de commencer à aménager tout l'ensemble des 16 hectares. En commençant par la plateforme basse, qui sont en fait ces deux plateformes. C'est les deux parties plates, les seules parties plates qu'il y a du parc. Le reste, c'est que des pentes et des petites terrasses.
Il y a d'autres sur les quartiers nord, il va y avoir d'autres.
Non, merci, au revoir.
Non, mais c'est obligé.
Elle est pas en état, elle est pas en état.
Je suis pas en état, je suis pas en état total.
C'est juste la voix, Monique. Oui. Alors, Yes We Camp, c'est une association qui s'est créée en 2013 à l'Estac, dans le cadre de la capitale européenne de la culture. On avait créé un camping éphémère, mais qui était à la fois écologique, culturel, accueillant en tout cas. Et c'était au début un projet qui a émergé comme ça, d'une opportunité avec énormément de monde qui s'est motivé et qui a fait que ça a pu exister. Et finalement, cet élan a donné envie de continuer à explorer, à exploiter ces endroits des villes et des campagnes qui ne sont pas utilisés, soit parce qu'ils sont en attente d'un futur projet, soit juste parce qu'ils ne sont pas utilisés. Et on s'est dit que c'était l'occasion d'essayer de développer tout ce qu'il était possible de faire dans ces endroits-là.
Et du coup, peut-être que tu peux nous parler aussi des autres projets de Yes We Camp sur Marseille déjà.
Alors, il y a plusieurs projets à Marseille. Donc, il y a un projet qui se situe à côté de la Porte d'Aix qui s'appelle Coco Velten et qui est inspiré directement d'un projet qu'on avait développé à Paris dans le quartier d'Enfer Rochereau, donc les Grands Voisins, et qui était un petit village au sein du 14e arrondissement monté en partenariat avec Aurore et avec Plateau Urbain. Et l'idée, c'était de réinvestir un ancien hôpital, Saint-Vincent-de-Paul, pour y proposer du logement social, pour y proposer des espaces de travail pour des associations, des entrepreneurs et un espace ouvert à tous, donc avec de la programmation, des lieux de convivialité, un camping, et faire en sorte que l'accès au grand public finalement soit favorisé pour que les gens se rencontrent, pour que les gens puissent finalement travailler, créer, se reposer dans un seul et même endroit. Et des gens très différents du coup.
Et comment ça se passe du coup le lancement d'un projet comme ça vous, à qui vous vous adressez? Comment vous ça...
En fait, ça dépend vraiment. Des fois, on est sollicité. Des fois, c'est nous qui proposons. Les grands voisins, on est venus nous chercher. Pour Coco Velten, qui donc est sur ce modèle-là aussi, c'est-à-dire ce triptyque hébergement, accueil d'espace de travail et lieu ouvert au grand public, on a aussi été sollicité par la préfecture qui souhaitait travailler sur cette question du logement social. Mais comment on pouvait le faire finalement autrement ? Et surtout aussi d'utilisation de bâtiments vacants, puisque le bâtiment dans lequel se déroule Coco Velten, c'est un bâtiment de 4000 m² qui était vacant et qui allait sans doute rester vacant encore un certain temps. Donc plutôt que de le laisser vide, ils étaient très intéressés pour tester des usages et des occupations possibles de ce bâtiment. Ce qui dure 2 semaines, 2 ans ou 10 ans, l'objectif c'est de montrer qu'il y a d'autres types de projets qui peuvent émerger, qu'il y a d'autres types d'endroits dans la ville qui peuvent encore se créer ou dans les campagnes. Et finalement, la temporalité, ça nous permet juste de tester des choses de façon un petit peu différente, mais l'idée c'est la même, c'est vraiment de transmettre d'autres manières de faire, de s'appuyer sur des manières de faire qui pourraient exister mais qui sont peut-être un peu contraintes, et c'est ça qui est important pour nous, je pense.
Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement de cette association Yes We Camp, parce qu'il y a donc plusieurs entités, Foresta, Coco, bon, les grands voisins qui ont disparu. On parlait tout à l'heure avec Xavier du couvent à Roubaix pour lequel vous avez été sollicité pour apporter votre expertise. Le fonctionnement de l'association, je ne sais pas si vous êtes structuré en association, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est l'association Yes We Camp?
En fait, c'est juste une association qui s'est créée à Marseille et qui porte plusieurs projets dans la France entière. Donc il y a des projets à Marseille, il y a des projets à Paris, il y a des projets ailleurs, par exemple à Roubaix. Et en fait, on a plusieurs modes d'activation ou de travail, je dirais. On a un mode qui est sur le pilotage de projets, donc l'occupation d'espace. Et là, avec l'exemple de Roubaix, en fait, on teste plutôt l'accompagnement d'un collectif tiers qui, lui, voudrait monter un lieu au sein d'un ancien couvent. Après, on a des formes aussi purement, je dirais, programmatiques. On a aussi créé un diplôme universitaire qui permet de partager tout cet enseignement avec tous ceux que ça intéresse, puisque on voit bien qu'il y a quelque chose qui est né, là, il y a un petit moment autour des tiers-lieux, autour des tiers-lieux culturels, qu'il y a beaucoup de demandes, en fait, de gens très variés, d'associations très variées et même de villes très variées. Et l'idée de créer un diplôme universitaire, c'était vraiment de se dire, partageons le plus possible toutes ces expériences et tous ces savoirs, que ce soit les nôtres parce qu'on les a acquis un petit peu au travers des différents projets, ou ceux des gens qui ont envie de les partager et qui en ont aussi tout autant finalement.
On voit, il y a pas mal de gens autour de nous là qui viennent, des utilisateurs, des gens du quartier, quelqu'un en permanence, là on est à côté de la buvette.
Alors là, les deux sont pas incompatibles en fait. Nous, on a toujours, depuis qu'on travaille sur ce projet-là, on a toujours travaillé sur le fait que on n'allait pas arriver et tout inventer, parce qu'en fait, il y avait déjà des choses qui existaient, il y avait déjà des usages du parc qui existaient. Donc, on a plutôt décidé de construire en fonction de ces usages, en fonction des gens qui habitent et qui travaillent autour. C'est pour ça qu'on a eu au moins 2 ans de rencontres, d'échanges, de balades, d'événements sur site pour justement raconter et se partager les histoires de ces quartiers, de ces territoires et de ce site. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de monde qui vient, on voit qu'il y a un mot qui s'est passé. Et nous, on n'est pas seul sur site. Yes We Camp n'est pas seul sur site. Elle gère le site et elle co-construit le site avec des porteurs de projets qui sont installés, pas tous du coup au même moment, mais qui sont vraiment bien installés. Je parle du centre équestre, du coup, l'Orange Caraman. Je parle d'Amida qui développe son jardin pédagogique. C'est des exemples de gens avec qui vraiment on gère le site. Donc, de fait, il y a toujours quelqu'un sur le site. Nous, équipe, on est là 7 jours sur 7 pour justement ouvrir un peu la buvette, pour mettre des jeux à disposition et pour être là. Le centre équestre, lui aussi, est là tous les jours. Amidal est là aussi très régulièrement. Donc en fait, chacun, à sa manière, assure une forme d'accueil et assure une forme d'échange et de disponibilité au public.
Et est-ce que vous organisez des activités, par exemple, vous organisez des choses, ou est-ce que vous laissez vraiment les utilisateurs
Les deux. n'assure pas forcément encore notre pleine fonction de programmation d'un lieu. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est qu'en effet, pour nous, c'est surtout un lieu ressource, une plateforme, un endroit où d'autres peuvent venir programmer. Et nous, c'est surtout ce qu'on essaye, c'est ce qu'on essaye de créer. En fait, c'est d'arriver peut-être en support, en soutien ou juste en accueil de toutes les initiatives qui nous arrivent.
On est là, et c'est pour on ça, profite de la journée, en fait, du soleil de Marseille et c'est bien. Il y a ma tante, ma mère et moi, et c'est tout. Et ma cousine. Bah, ici, je viens, je joue, c'est tout, ouais.
Tu joues à quoi ?
Bah, je joue avec tout ce qu'il y a, les ballons, tout, ouais. Tout ce qu'il y a, les chevaux, les poneys, les chevaux, pardon, les poneys, voilà. C'est bien pour les gens de quartier nord. C'est très bien. Et c'est bien pour les familles et tout. C'est très bien. Et aussi, ils peuvent faire des fêtes aussi. Et c'est très bien. Et on profite du soleil et de Marseille.
Et pour poursuivre notre balade dans les quartiers nord, je vous propose de nous rendre sur la magnifique plage de Corbières à travers ce morceau du groupe marseillais Babor Swing.
Viens donc à Corbières, là-bas on boira des bières bien installées entre deux rochers sur la grande jetée. Ce n'est pas l'Irlande, mais la mer est grande, elle appartient à tout le monde et on peut tous en profiter. Prends ta canne à pêche, faut qu'on se dépêche, car c'est tôt le matin que le poisson va piter. N'oublie pas les esques, car sans ça le pescaille est comme un gabion sans ses ailes, un minot sans sa bouée. Y'aura les collègues Nicole-Antoine, le bègue, les jumeaux de Saint-Henri et toute une flopée de petits. Y'aura tout le monde, Malika la blonde viendra avec ses copines et bien sûr il y aura Mimi. C'est une sirène, de nous c'est la reine, elle nage comme un dauphin, on ne peut pas l'attraper. Quand elle sort de l'ombre, c'est la plus belle du monde. Ses cheveux comme des algues sur sa peau bien bronzée. Pablo le poète, y'en a qui disent qu'il se la pète, mais nous on aime bien ses mots, ses petits bouts rimés. Et on reprend en chœur, sur trois accords majeurs, ces vers qui nous chantent la Méditerranée. Au loin les bateaux passent, pendant qu'on se prélasse, en songeant au pays lointain où ils vont accoster. Et l'on pense aux ancêtres, et on se dit peut-être qu'un beau jour on ira aussi voir de l'autre côté.
André Bigot du groupe Climat d'Attaque. Nous allons aborder maintenant la lutte d'un collectif d'associations pour contenir l'aéroport de Marignane dans sa configuration actuelle, alors qu'il existe un projet d'extension dont la première tranche, le cœur d'aérogare, vient de faire l'objet d'une enquête publique et d'un permis de construire du préfet malgré une grosse majorité d'avis défavorables. 20 000 m² supplémentaires et une grosse dépense de 140 millions d'euros. Nous recevons Joël Martin d'ATAC également pour faire le point.
Bonjour.
Bonjour. Joël, il se trouve que le trafic aérien représente 2,4% des émissions de CO2 dans le monde et 11% des émissions de transport, c'est considérable. Joël, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce thème ?
Ben oui, on peut dire que l'aviation, c'est le moyen de transport à longue distance vraiment le plus négatif pour le... Enfin, disons, le plus porteur d'effet de serre, donc le plus négatif pour le climat. Hein. Ben, tout simplement parce qu'un avion, c'est lourd. Hein. Un train, il est soutenu par ses rails. Un avion, il faut le faire s'envoler. Si on prend une comparaison, hein, qui m'a vraiment frappé, hein, pour faire Marseille-Paris par avion ou par TGV, hein, eh bien, l'avion émet 53 fois plus de CO2 par personne transportée sur ce trajet. 53 fois plus. Donc, il n'y a pas photo. Hein, l'aviation, c'est vraiment là-dessus qu'il faut diminuer les transports, hein, pour préserver le climat. Alors, ce qu'il y a, c'est que l'aviation est en croissance au niveau mondial. Hein. Le total double tous les 15-20 ans. Hein, parce qu'il y a les pays émergents et puis parce qu'il y a la volonté commerciale d'apporter les marchandises jusqu'aux consommateurs avec dans un temps record. Et puis il y a la volonté de vendre des transports pour le tourisme ou pour les affaires de plus en plus. Donc là, vraiment, c'est le fric, la rentabilisation du capital la plus rapide possible qui booste ce moyen de transport. Ce qui est totalement une absurdité du point de vue du climat. Et si l'augmentation du transport aérien continuait comme ça, hein, telle qu'elle est, hein, business as usual, comme on dit, le budget carbone de la France serait totalement consommé en 2050 uniquement par l'aérien. Alors qu'est-ce que c'est que le budget carbone de la France ? Alors c'est un petit calcul à la COP21, donc à l'accord de Paris sur le climat, c'était en 2015. Hein, cet accord s'est basé sur un calcul pour que l'augmentation des températures moyennes sur Terre ne dépasse pas 2 degrés. Hein, parce que Si ça dépasse 2 degrés, on ne sait pas où on va. Hein. Donc 2 degrés, c'est vraiment le maximum. Et l'accord prévoit que si possible, il faudrait que ça ne dépasse pas 1,5 degré. Donc on a vu, comme ça, la quantité de diminution des émissions de carbone dans l'atmosphère que doit faire chaque État. Donc chaque État a, en quelque sorte, une autorisation limitée, hein, d'après cet accord, d'émettre du carbone dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle son budget carbone. Eh bien, l'aviation, à elle toute seule, elle boufferait déjà tout. C'est absurde. C'est comme... Alors, c'est ce qu'on savait déjà. Hein. Mais de plus en plus, il y a des recherches scientifiques qui montrent qu'à haute altitude, les émissions des avions ont aussi un effet de réchauffement de l'atmosphère. Hein. Alors, les particules, des nuages induits, il y a l'oxyde d'azote. Alors, c'est un peu compliqué. Hein. Ces nuages, par exemple, en un sens, ils renvoient directement le rayonnement solaire, donc c'est plutôt bon pour le climat, ça ne réchauffe pas trop. Mais d'un autre côté, ils empêchent la chaleur qui est sur Terre de s'évanouir dans l'espace. Hein. Donc, globalement, les effets de l'aviation à haute altitude sont, à eux seuls, deux fois plus coupables de réchauffement de l'atmosphère que simplement les émissions de CO2 dans l'atmosphère. Ça veut dire que quand on a les émissions de CO2, il faut multiplier, alors c'est une estimation, hein, il y a des scientifiques qui disent il faut multiplier par 2, il y en a qui disent il faut multiplier par 4 pour avoir l'effet total. Hein. Donc il faut bien un consensus au point où on en est, en attendant de meilleures recherches. Hein. Ça veut dire que quand on parle des émissions de CO2 de l'aviation, il faut bien savoir que leur effet nocif sur le climat, c'est 3 fois plus. Donc là, on est, c'est vraiment le mode de. Si on veut lutter pour la défense du climat, c'est vraiment le mode de transport qu'il faut radicalement diminuer.
Oui, oui, j'entends bien. Et malgré ce tableau inquiétant pour le climat, on assiste à un rapport de force entre les défenseurs du climat et l'industrie aéronautique, le gouvernement, etc., qui est inégal. Qu'en est-il ?
Oui, alors. Ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, ils contrôlent plus ou moins les médias, oui. Mais enfin, en même temps, je crois que l'opinion publique comprend que l'aviation, c'est l'exemple même par excellence, hein, d'un arrêt absolument, d'une diminution énorme qui est tout à fait nécessaire, hein, et qui serait possible. Hein, qui serait possible pour des tas de raisons. Hein. D'abord, en termes de justice sociale, dans le monde, c'est une petite minorité de gens qui utilisent l'avion. Hein. Même en France, hein, quelques pourcents des utilisateurs, des voyageurs en avion, hein, que ce soit des gens très riches qui prennent l'avion pour un oui ou pour un non, ou que ce soit des hommes d'affaires. Et puis, bon, à ça s'ajoutent les touristes de la classe moyenne, mais 3% des gens consomment, émettent 50% des émissions des avions. Donc, ce serait déjà une mesure de justice sociale. Hein. Ce serait pas grave pour la masse des gens. Hein. Bien sûr, il faut conserver des avions. Il y a des cas d'urgence, etc. Ça, d'accord. D'autre part, les travailleurs de l'aviation sont en général qualifiés. Ils ont une grande diversité de qualifications. Il y a des informaticiens, il y a des physiciens, il y a des logisticiens, enfin, etc. Donc ce serait tout à fait possible de les reconvertir vers d'autres branches qui ont besoin de cela. Il y a des étudiants de l'aviation qui ont demandé, c'est une pétition, un appel, disons, qui a été signé par 700 étudiants, hein, qui ont demandé cette réorientation. Hein. Il y a des projets proposés par des travailleurs de l'aviation, des projets de reconvertir les grandes entreprises de l'aviation pour en faire un pôle qui créerait des entreprises de reconversion, des entreprises spécialisées dans la mise en place de reconversion. Hein. Donc il y a des projets, mais c'est vrai qu'ils veulent continuer. Hein. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent continuer ? Je crois que ce sont des capitalistes qui, comme pour tout, ils veulent absolument donner des signaux à leurs actionnaires comme quoi « ne vous inquiétez pas, on va continuer ». Ça va continuer. On trouvera des solutions. Hein. L'avion à hydrogène, l'avion où on met beaucoup de gens dans une même cabine, comme ça, par rapport au nombre de personnes transportées, ma foi, il y aura quand même moins de gaz à effet de serre. Mais tout ça, c'est bidon. Hein. L'avion à hydrogène, on ne sait pas quand il sera prêt. Hein. Et puis, de toute façon, il y a une telle progression dans les modèles commerciaux actuels que tout ça, c'est du baratin. Alors, ils veulent continuer, et en particulier, l'un des signaux qu'ils veulent donner, que ces entreprises de l'aviation veulent donner, c'est les projets d'extension des aéroports doivent continuer. Hein. Il y a 8 projets d'extension, hein, je crois que c'est 8 ou 10, enfin bon, il y a des projets plus ou moins avancés. Hein. Ils veulent absolument continuer, et ils ont la complicité de l'État. Ça aussi, hein, il faut le dire. Hein. On dit que c'est le projet de l'aéroport Marseille-Provence que de se développer. Mais Marseille-Provence, 60% des actions sont entre les mains de l'État. Voilà. Hein. Et puis, de toute façon, l'État, il pourrait prendre des mesures, des lois, des règlements. Hein. Quand il y a eu le plan de relance, après la diminution d'activité due aux règles sanitaires, hein, au Covid, hein, eh bien, l'État a dépensé de l'argent pour renflouer les compagnies aériennes les compagnies aériennes ont perdu 60% des voyageurs. 60%, parce que les gens ne veulent pas aller se faire contaminer par le Covid en allant là où il y a beaucoup de monde. Et puis aussi parce qu'il y a des mesures sanitaires qui ont été prises, hein, de diminution des transports. Bon, et donc elles ont perdu de l'argent. L'État les a renflouées sans leur demander rien en échange. C'est-à-dire, continuez à faire comme vous voulez. Oui, voilà. Donc, oui, bon. Bien sûr, enfin, ils veulent continuer. Ils ont des complices. Et néanmoins, dans l'opinion publique, je crois que l'idée qu'on pourrait se passer des avions, cette idée progresse. Elle progresse.
Oui. Alors, évidemment, l'aéroport Marseille-Provence, ils ont bien conscience de cet état de l'opinion et de cette problématique. Et donc, ils nous présentent un projet de rénovation, on va dire, et qui, me semble-t-il, dissimule justement cette idée de faire croître le trafic aérien. On nous présente donc un projet par tranche, avec une première tranche, qui, soi-disant, ne ferait pas progresser le trafic de cet aéroport. En fait, est-ce une stratégie de dissimulation, selon toi ?
Alors, le projet de rénovation de l'aéroport est le même maintenant que ce qu'il était avant le Covid. Hein. C'est-à-dire, avant le Covid, tous les discours de AMP, Aéroport Marseille-Provence, c'était « les gens veulent de plus en plus des voyages en avion, nous accompagnons », c'était ça le grand mot, hein, « accompagner le développement du désir de prendre l'avion ». Hein. Et donc, il faut améliorer l'accueil des gens, améliorer les formalités, permettre aux gens de flâner dans une zone commerciale rénovée, n'est-ce pas ? Parce que tout le monde a envie de flâner devant des magasins, c'est bien connu, c'est dans la nature humaine, on ne peut pas faire comme ça autrement. Même les hommes préhistoriques flânaient devant les magasins. Donc c'était ça le discours. À partir du moment où il y a eu la chute de la clientèle, hein, le discours a complètement changé du jour au lendemain, hein, en disant « eh bien, nous allons faire simplement rénover l'accueil, les formalités sanitaires, les formalités antiterroristes, etc. » Et puis, la partie « que devient le trafic aérien, est-ce qu'il augmente ou pas ?» Eh bien, on verra après. Hein. Mais les photos, par exemple, sont les mêmes, le plan est le même, simplement il a été divisé en deux parties, c'est un écran de fumée. Voilà, oui, c'est tout. Hein.
Oui, oui. Alors, nous, on agit actuellement là, contre le développement du secteur aérien, et dans un contexte de mise en accusation judiciaire de l'État. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce contexte où l'État est maintenant en difficulté devant même des tribunaux ?
Oui, oui. Ce que je disais sur le fait que il faut vraiment en finir quoi avec. Avec ce saccage du climat par les émissions de gaz à effet de serre. Bon, petit à petit, il y a pas mal de gens qui en prennent conscience. Et je crois qu'il faut bien se dire. Hein, ça, je le dis hein, pour vous qui nous écoutez. Les années 2021 sont peut-être une année, vraiment une année tournant, où il y a plein de choses qui changent dans l'opinion publique. Alors, en particulier... C'est vrai, il y a actuellement, depuis l'été, l'été donc 2020, hein, et puis tout récemment encore, il y a 3 condamnations de l'État par des tribunaux. Hein, l'État est condamné pour ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour prendre des mesures contre le dérèglement climatique. Hein. D'abord, hein, le Conseil d'État a condamné l'État à payer une astreinte de 10 millions d'euros par semestre à des ONG hein, s'il n'est pas capable de réduire les émissions des particules fines et des oxydes d'azote dans les zones urbaines, conformément à une directive européenne de 2008. Alors, Ça concerne des enjeux de santé, hein, donc la pollution, c'est mauvais pour les poumons, etc. Mais ce sont des polluants qui également, hein, les oxydes d'azote en particulier, qui augmentent la température de l'atmosphère. Donc on est sur également le dossier climat. Donc bien sûr, c'est à suivre, hein, l'État va essayer de... Enfin, il doit fournir des documents, etc. Ça va très lentement, c'est la justice, hein, mais déjà ça. Deuxième contentieux, la commune de Grande-Synthe, tout au nord, là, c'est une commune qui est au bord de la mer, hein, ils établissent que, avec le réchauffement climatique, la montée des eaux de l'océan va les mettre en danger, quant à eux. Et ils ont porté plainte contre l'État français pour sa non-action sur l'augmentation des températures. Le Conseil d'État leur a donné raison, a donné l'obligation à l'État de réaliser ses propres objectifs. Il existe une stratégie nationale bas carbone, hein, qui s'appuie sur des lois qui ont été votées en France, mais cette stratégie n'est pas appliquée. Pas suffisamment. On a pu montrer que les émissions de gaz à effet de serre en France, année après année, dépassaient même ce que l'État français avait décidé de faire, même ce qu'il a signé aux accords de Paris. Bon, là encore, c'est à suivre, hein, parce que le tribunal a demandé à l'État de fournir, ses projets précisément. Enfin, l'affaire du siècle, entre guillemets, l'affaire du siècle, hein, c'est 4 grandes organisations écologistes, hein, la fondation Nicolas Hulot, hein, qui s'appelle maintenant Pour la nature et l'homme, Greenpeace, enfin, etc., hein, avaient mis en accusation la France pour non-respect de ses propres objectifs. Et le tribunal administratif de Paris, en février 2021, leur a donné raison. Hein. Donc, c'est vrai que l'État est en faute par rapport à sa propre loi. C'est malheureux qu'on soit obligé de faire de la chicanerie judiciaire avec les tribunaux pour arriver à faire admettre cela, mais on a affaire à une telle... C'est pas conspirationniste ce que je dis là, hein, mais à un tel pouvoir de résistance de la part de l'État qui ne veut pas se mettre en faux contre la stratégie des grandes entreprises. Ben, il faut en passer par là. Mais évidemment, ça ne suffit pas. La justice, ça va lentement. Et bon, dimanche 28 mars, là, au moment où je vous parle, c'est le dimanche qui va arriver, hein, eh bien, il y aura des manifestations partout en France. Et je pense que ces manifestations seront au moins, si ce n'est plus, importantes pour l'avenir que simplement les décisions de justice. Mais le mouvement climat agit à tous les niveaux. Au niveau de l'expertise, au niveau de la justice, et puis dans la rue aussi. Hein ?
Oui, alors, malgré ces problèmes judiciaires qu'a l'État, il y a en préparation actuellement la loi climat, qui s'appuie en partie sur... qui aurait dû s'appuyer sur les propositions de la Convention citoyenne qu'a mis en place Macron. En fait, on voit bien que là aussi, il y a un recul. Et dans ce contexte-là, on est encore... face à un recul, alors que tous les signaux commencent à être au rouge. Voilà, qu'en est-il de ce recul par rapport à la Convention citoyenne ?
Oui, enfin, il faut dire aussi que cette loi climat, elle a été critiquée de la même façon que les tribunaux ont critiqué l'action du gouvernement français. Hein. Elle a été critiquée par de hautes instances dans l'État. Hein. Le Conseil économique, social et environnemental, hein, où il y a toutes les forces vives de la société civile qui sont représentées, hein, a émis un rapport très négatif. Hein. Le Haut Conseil pour le climat, idem. Hein, et puis l'autorité environnementale, alors c'est un organe qui dépend du ministère de la transition écologique, s'appelle, enfin bon, ministère de l'environnement quoi, hein, un organe tout à fait officiel qui fait de l'expertise, hein, et qui également porte un regard négatif sur l'ensemble de la politique de l'État, eh bien, le tableau qui en ressort, c'est que ces institutions considèrent que la loi climat n'est absolument pas à la hauteur. Hein. Alors, je voudrais donner quelques exemples hein, qui montrent aussi comment ils procèdent. Hein. Par exemple, la Convention citoyenne pour le climat, sur la question des lignes intérieures aériennes, avait émis la proposition suivante. Hein. Pour tout trajet que l'on peut faire en moins de 4 heures par le train, hein, il faut interdire que ce trajet soit fait en avion. Hein. Le gouvernement avait repris en fanfare cette demande, mais au lieu d'indiquer pour tout trajet que l'on peut faire en moins de 4 heures, c'était pour tout trajet qu'on peut faire en moins de 2h30. Ce qui fait que pour beaucoup de trajets intérieurs, hein, le gouvernement ne souhaitait pas la suppression des lignes aériennes. Dans les détails de la loi émise par le gouvernement dit qu'il faudra aussi des aménagements à l'interdiction de prendre l'avion si on peut rejoindre la destination en moins de 2h30, des aménagements quand, par exemple, la majorité des voyageurs utiliseront une correspondance entre deux vols, avec deux vols, pour faire... ce trajet fera partie d'un vol avec des correspondances. Alors comment allez-vous contrôler ça, savoir, quelques jours ou quelques semaines à l'avance, au rythme où on prend maintenant les billets d'avion, si ce vol va être autorisé ou interdit? C'est pas possible, c'est ingérable. Hein. Et il prévoit aussi qu'on pourra prendre l'avion lorsque le carburant de l'avion sera majoritairement décarboné. Alors du carburant décarboné dans les avions, c'est pas pour demain. D'en mettre déjà, enfin on peut en mettre un peu, hein, mais qu'il soit majoritairement décarboné. Mais je veux dire, on voit que la loi, alors là c'est un exemple de ce que j'appellerais la climato-hypocrisie. Hein. On a eu, il y a quelques années, on a eu les climato-sceptiques, les gens qui nous disaient mais non, les scientifiques racontent des choses qui ne sont pas sûres, le réchauffement climatique, non. Maintenant, non. Non, on admet qu'il y a le réchauffement climatique et qu'il faut faire quelque chose. Mais la climato-hypocrisie, à la fois on dit « Oui, c'est bien, la Convention climat, les citoyens ont bien travaillé, et il faut reconnaître, hein, ces citoyens ont fait un travail très bon. Ils montrent que tous les citoyens, si on leur donne les bonnes informations, si on leur donne le temps de discuter, ils trouvent des solutions. Hein. » Alors, on dit « Oui, c'est bien », le gouvernement dit « Oui, c'est bien », mais dans de multiples détails de la loi, on enlève toute force aux propositions faites. Hein, c'est ça qu'on peut appeler la climato-hypocrisie. Hein. Et ce qui fait que cette loi, ma foi, presque tout le monde dans la presse dit qu'elle n'est pas suffisante.
Oui. Alors, bon, je crois qu'on a commencé à faire un peu le tour des questions. Revenons un peu à l'aéroport de Marignane. Sur cette extension, il y a actuellement une pétition. Bon, il serait intéressant que cette pétition soit plus signée, en particulier si on dépasse les 10 000 signatures, ça nous permet des recours juridiques. Où en est-on aujourd'hui de cette pétition ?
Oui, c'est facile de trouver cette pétition. Ainsi, sur un moteur de recherche, si vous faites non à l'extension de l'aéroport Marseille-Provence, hein, vous allez tomber sur un site qui s'appelle Green Voice, la voix verte, hein, qui est en fait un site, une émanation de Greenpeace, où il y a cette pétition. Hein. Maintenant, elle en est à, je crois, on est autour de 5000 signatures.
Un peu plus.
Bon, un peu plus déjà. Hein, donc, il faut vraiment y aller. Parce que la pétition fait un état assez détaillé de pourquoi il ne faut pas d'extension de l'aéroport. Hein. Ah oui, encore un exemple de climato-hypocrisie. Hein. La loi admet qu'il faut arrêter les extensions d'aéroports. Mais il y a c'est comme dans les contrats où on se fait avoir. Hein. Il y a les petites lettres qui sont écrites en dessous. Hein. Tant qu'il faut donc l'interdiction des extensions d'aéroports, l'extension peut ne pas être interdite, peut être tolérée, tant qu'elle ne n'amène pas à augmenter le trafic plus haut qu'il était en 2019. C'est-à-dire que le trafic de 2019, qui déjà dépassait les engagements normaux de la France à l'accord de Paris, ce trafic de 2019 est considéré comme finalement un niveau normal auquel on peut revenir. Alors que c'est l'occasion, hein, on s'est rendu compte avec le Covid qu'on peut vivre avec beaucoup moins de vols d'avion. Hein. Au lieu de saisir cette occasion pour aller dans le sens du climat, on fait de 2019 presque un idéal, une norme. Hein. Alors ça c'est de la climato-hypocrisie.
Bien, bah écoute, on a fait un petit tour de la question, on y reviendra certainement. Merci Joël.
Merci, au revoir.
Alors, Nicolas, oui. Qu'est-ce qui se passe à Attac ce mois-ci ?
Alors, ce mois-ci, vous pourrez assister à un ciné-débat avec la projection en ligne du film No Way. La projection sera suivie d'un débat avec un éleveur de la Confédération Paysanne.
Redis-nous le réalisateur.
Alors, c'est Ton Van Zandtroot.
Ah ouais, c'est bien dit, bravo. Quoi d'autre ce mois-ci ?
Alors, nous vous proposons également d'adhérer à Attac Marseille et ainsi de participer à l'ensemble des groupes de l'association, aux réunions du groupe Climat Transition, du groupe Genre Féminisme, et pourquoi pas nous rejoindre pour la radio ou encore pour la troupe de théâtre Les Ascendants.
Je reviens sur la projection du film No Way. Alors, je suis désolé, je ne vous avais pas annoncé ni l'heure ni la date. Alors la projection en ligne aura lieu le vendredi 16 avril à 18h30 et sera suivie d'un débat à partir de 20h. Le lien sera bien évidemment disponible sur le site d'Attac Marseille. Je vous souhaite une belle fin de journée sur Radio Galère. Au revoir.
C'était La Gueule Ouverte, le rendez-vous mensuel d'Attac Marseille. On se retrouve le mois prochain, le deuxième jeudi du mois, de 15h à 15h30 sur Radio Galère. Allez, zou, bouleg, casse-toi, bye, bye.